Bienvenue à tous. Ce matin, dans Matin Famille, on vous propose de comprendre la fécondation in vitro, ce véritable espoir de parentalité pour les couples qui souffrent de problèmes de fertilité. Et pour en parler, docteur Basma Koubaïti a accepté notre invitation sur Médien. Bonjour docteur.
Bonjour, c'est un plaisir d'être sur les ondes avec vous pour discuter d'un sujet qui est très très intéressant, la fécondation in vitro.
Vous êtes gynécologue obstétricienne à Rabat. Alors première question, la fécondation in vitro ou la FIV, alors c'est quoi d'abord pour commencer?
Alors la fécondation in vitro, c'est un processus de procréation assistée, c'est-à-dire qu'on va aider le couple à concevoir. C'est une technique qui date des années 70 et qui est opérationnelle depuis les années 80.
D'accord.
Le premier bébé FIV est né en France en 82, donc c'est pas très ancien, mais c'est pas non plus très récent. Mais c'est une technique qui est suffisamment maîtrisée, qui donne beaucoup d'espoir à des couples qui n'arrivent pas à concevoir. Le but dans tout ça, c'est le but de la fécondation in vitro, c'est quoi? C'est assurer la rencontre entre l'ovocyte, qui est chez la femme, et le spermatozoïde, mais en dehors du corps de la mère. C'est un bébé éprouvette.
Alors justement, quelles sont les étapes? Comment ça se passe? Quelles sont les étapes d'une FIV?
Alors, on a déjà actuellement deux sous-techniques en fécondation in vitro. Donc on a la FIV classique qui va permettre de mettre dans une éprouvette l'ovocyte avec plusieurs spermatozoïdes et laisser le spermatozoïde le plus fort féconder l'ovocyte. Et on a l'ICSI, l'injection intracytoplasmique, qui est apparue dans les années 90.
Oui.
Et là, c'est quand on a des spermatozoïdes de mauvaise qualité chez l'homme. Donc, elle permet de sélectionner les spermatozoïdes et de les injecter sous microscope de haute résolution directement dans l'ovocyte. Mais avant d'arriver à choisir l'une ou l'autre, donc en général, le couple est passé par une série d'examens, aussi bien chez la femme que chez l'homme, pour pouvoir décider quelle technique sera la plus adaptée. La FIV va se faire sur plusieurs étapes. On a quatre grandes étapes.
D'accord.
La première, c'est une stimulation ovarienne. Elle a pour but de stimuler les ovocytes en administrant un traitement sous forme d'injection d'hormones de façon quotidienne. La patiente, la dame, aura une surveillance échographique à intervalles réguliers et des dosages hormonaux pour s'assurer qu'elle répond bien au traitement.
D'accord.
Car le but de cette première étape est d'obtenir une maturation importante de plusieurs petites ovocytes, donc les follicules, dans les ovaires, pour qu'on en ait plusieurs, pour pouvoir avoir de meilleurs résultats. Une fois la stimulation faite, le deuxième temps, c'est le déclenchement. Donc, on va déclencher l'ovulation. Une fois qu'on a à l'échographie un nombre suffisant et la taille de maturité atteinte, on va déclencher avec une injection d'hormones 36 heures avant de passer à la troisième étape importante qui est la ponction. La troisième étape, donc, c'est le temps où le couple va venir ensemble à la clinique pour faire la ponction d'ovocytes chez la femme et le recueil du sperme chez l'homme. La ponction va se faire sous petite anesthésie avec un contrôle échographique. On va recueillir les follicules dans un milieu spécifique et on va les conserver dans un incubateur. Ils vont être étudiés au microscope pour apprécier leur maturité, leur qualité et voir quels sont ceux qui vont être fécondés. Et comme je l'ai dit, en parallèle, le sperme sera recueilli, il sera également traité au niveau du laboratoire et ils vont sélectionner au niveau du laboratoire les spermatozoïdes de bonne qualité. Une fois fait, la ponction faite et le recueil fait, la fécondation de l'ovocyte par le spermatozoïde se fait le jour même. Il reste une dernière étape ultime, c'est le transfert. Donc, une fois fécondation obtenue, les ovocytes fécondés, donc c'est l'œuf, il va être gardé et conservé au niveau d'un incubateur à 37 degrés pour simuler un corps humain. Mmh. Et le transfert de l'œuf fécondé se fera après 2 à 6 jours après la fécondation, quand il aura atteint le stade embryonnaire.
Alors avant de revenir sur le pourcentage de réussite, vous avez parlé justement de ces couples qui arrivent en cabinet. Alors à partir de quel moment peut-on faire appel à cette technique?
Alors déjà, il faut savoir qu'en général, ce sont des couples qui arrivent après un long chemin, une longue bataille.
Mmh.
Et parfois, c'est des couples qui ont également été un peu perdus dans la prise en charge, dans le diagnostic. Donc, c'est des couples qui viennent avec beaucoup d'espoir. Donc, on leur dit que oui, il y a de l'espoir, mais il faut savoir poser l'indication à temps. Donc, un couple qui habitent sous le même toit, parce que souvent on a des couples qui viennent et qui n'habitent pas la même ville, qui n'habitent pas la même maison. Ça rend les choses un peu plus compliquées. Donc un couple est considéré comme infertile quand il essaye pendant 12 à 24 mois de tentative de grossesse sans contraception et d'accord, sans qu'il ait aucun problème. Alors ça peut paraître long, 12 à 24 mois, mais le minimum c'est 12 mois. Et bien sûr, après avoir fait un petit coup de sonde échographique, un minimum, pour s'assurer que tout va bien.
D'accord.
Si le cas contraire, après, si on fait un petit bilan au bout de 6 mois à 1 an et on trouve des anomalies d'ovulation, on trouve un problème au niveau des trompes, on trouve des anomalies au niveau du spermogramme, à ce moment-là, il est impératif de passer à l'étape supérieure et penser soit à une insémination ou à une FIV. Quand les trompes de la femme sont bouchées, c'est-à-dire que les trompes, c'est ce qui va permettre le passage c'est le lieu de fécondation et c'est ce qui va permettre le passage de l'œuf fécondé au niveau de l'utérus. Mm-hmm. D'accord ? Donc, si elles sont bouchées ou altérées, à ce moment-là, on n'a pas de probabilité de les probabilités de grossesse sont faibles et on s'expose au risque de grossesse extra-utérine. On a également la fameuse endométriose qui altère la qualité des ovaires, qui altère la réserve ovarienne et qui peut créer des adhérences et entraver le bon processus de la grossesse. On a les problèmes de glaire cervicale. Donc la glaire cervicale, c'est les sécrétions blanchâtres, translucides comme le blanc d'œuf que va avoir la femme au moment de l'ovulation. Et cette glaire cervicale peut entraver la fécondation parce que c'est le milieu de transport des spermatozoïdes et quand elle est de mauvaise qualité, elle ne va pas assurer son rôle et donc les spermatozoïdes restent au niveau de la glaire et ne remontent pas jusqu'au niveau de la trompe pour la fécondation. Chez la femme, on peut également avoir une baisse de la réserve ovarienne, ça veut dire qu'elle n'a pas suffisamment d'ovocytes, que la qualité est un peu basse, donc il faut aller les stimuler, les faire renaître, comme on dit. Parfois, on a également les ovaires polycystiques. Après plusieurs échecs de stimulation classique, on a recours à une fécondation in vitro. Et on a également les problèmes de stérilité masculine, diminution de la qualité des spermatozoïdes, anomalies au niveau de la constitution des spermatozoïdes, diminution de la mobilité. Parfois, on a des spermatozoïdes immobiles. Parfois, carrément, on retrouve du sperme sans spermatozoïdes, c'est-à-dire qu'ils sont absents et à ce moment-là, il faut aller un peu plus loin, faire une biopsie testiculaire, voire rechercher la cause de l'absence de spermatozoïdes. Et puis, bien sûr, on a les causes d'infertilité méconnues. Donc, c'est un couple pour qui le bilan est strictement normal, mais qui n'arrive toujours pas à concevoir. Et donc, dans ce cas-là, on est amené à leur proposer une FIV. Après éventuel échec d'insémination ou directement en fonction des cas.
On arrive au pourcentage de réussite de cette technique, docteur Basma Koubaïti. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricienne à Rabat. Alors, quel en est le pourcentage de réussite, justement ?
Alors, il faut savoir que le pourcentage de réussite au niveau international, donc on a les recommandations. Moi, je vais vous parler des recommandations internationales et de ce qu'on a, nous, au niveau de notre centre à Rabat. Alors, le taux de fécondité recommandée, il doit être supérieur à 65% par ponction. On a 77% de taux de fécondation. Le taux d'implantation recommandé, c'est-à-dire quand on ponctionne, qu'on fait féconder et qu'on va transférer l'embryon, il est recommandé qu'il soit de 25%, supérieur ou égal à 25%. Mais le plus important, c'est parler en termes de naissance vivante par ponction. Donc par ponction, quand on a un âge, l'âge chez la femme est inférieur à 40 ans, à 38 ans, on va dire plus, parce que plus la femme est jeune, plus le taux de réussite est élevé, et qu'on transfère 2 embryons, parce que quand on va transférer les embryons, on va en transférer 1 ou 2 en fonction de l'âge, de la qualité de l'embryon obtenu. Il est recommandé d'avoir 40% en moyenne de naissance vivante. Et au niveau de notre centre, on est arrivé l'année dernière à 51,02%, ce qui est très encourageant et ça donne énormément d'espoir. Et puis, il faut savoir aussi une chose très importante, c'est qu'en général, les couples qui vont passer par l'étape de fécondation in vitro vont obtenir plusieurs embryons. Et parfois, on n'obtient pas une grossesse dès le premier transfert. Donc, si on a obtenu plusieurs embryons de bonne qualité, on va procéder à une congélation des embryons. Donc cette congélation va permettre au couple d'éviter l'étape stimulation, déclenchement, ponction et de passer directement après 1 ou 2 mois de l'échec du premier transfert à une deuxième tentative de transfert.
Alors avant de finir, docteur Basma Koubaïti, est-ce qu'il y a des précautions à prendre avant d'entamer cette technique donc qu'est la FIV?
Avant d'entamer toute technique de FIV, il faut faire un bilan détaillé pour savoir quelle technique on va choisir. Est-ce qu'on va faire une FIV seule ou une injection intracytoplasmique? Il faut bien sûr être préparé psychologiquement. C'est un long parcours, de longue haleine qui nécessite une surveillance échographique, des allers-retours au laboratoire. Donc, beaucoup de patience. C'est également matériellement un peu coûteux, donc il faut s'armer de courage et d'espoir.
Alors justement, en parlant de prix, c'est important de parler également de coûts. Combien coûterait cette intervention, cette opération donc? C'est aussi important d'en parler.
Alors il faut savoir qu'auparavant, tout ce qui était procréation médicalement assistée, donc tous les médicaments, la gestion de la fertilité n'était pas remboursée. Donc actuellement, depuis juin 2020 exactement, les médicaments sont remboursés en fonction d'une tarification nationale. Donc ça permet de récupérer une bonne somme de ce qui a été investi. Le coût, alors il y a un coût clinique et un coût médicamenteux, mais en moyenne, en gros, il faut avoir un portefeuille de 30 000 dirhams. Ça coûte entre 25 et 30 000 dirhams parce qu'on ne sait pas combien la patiente va nécessiter de traitement hormonal. Ça dépend de chacune, ça dépend de son bilan initial. Donc en gros, ça coûte dans les 25 000 dirhams. Après, il y a un coût pour la congélation aussi, il y a un coût pour le transfert postérieur, mais ils sont minimes. Pas aussi important que ce qu'on va investir au départ entre les médicaments, la surveillance biologique, échographique et les frais en clinique. Alors après le traitement FIV, il faut éviter les rapports sexuels, il faut éviter le port de charges lourdes, pas de bain très chaud. Le médecin va donner un soutien à base d'hormones de progestérone jusqu'à 6 à 10 semaines. Et il faut éviter l'activité physique intense.
Docteur Basma Kouvaiti, je rappelle que vous étiez avec nous depuis Rabat. Vous êtes gynécologue obstétricienne. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions sur Média.
Merci à vous pour l'invitation. Merci de porter un intérêt à ces couples infertiles qui ont besoin de soutien et au plaisir sur les ondes de Média.
À très bientôt. Et je rappelle que c'est un entretien réécoutable sur notre site média.com et sur podcast également. On vous retrouve très vite, docteur Kouvaiti. À bientôt.